Chapitre 2. Celui qui ouvre n'est pas toujours celui qui entre, où il est difficile de distinguer le rêve et la réalité. La porte Saint-Antoine était une espèce de voûte en pierre, pareille à peu près à notre porte Saint-Denis et à notre porte Saint-Martin d'aujourd'hui. Seulement elle tenait par son côté gauche au bâtiment adjacent à la Bastille et se reliait ainsi à la vieille forteresse. L'espace compris à droite entre la porte et l'hôtel de Bretagne était grand, sombre et boueux. Mais cet espace était peu fréquenté le jour et tout à fait solitaire quand venait le soir, car les passants nocturnes semblaient s'être fait un chemin au plus près de la forteresse afin de se placer en quelque sorte dans ces temps où les rues étaient des coupe-gorges, où le guet était à peu près inconnu, sous la protection de la sentinelle du donjon, qui pouvait non pas les secourir, mais tout au moins par ses cris appeler à l'aide et effrayer les malfaiteurs. Il va sans dire que les nuits d'hiver rendaient encore les passants plus prudents que les nuits d'été. Celle pendant laquelle se passent les événements que nous avons déjà racontés et ceux qui vont suivre était si froide, si noire et si chargée de nuages sombres et bas que nul n'eût aperçu derrière les créneaux de la forteresse royale cette bienheureuse sentinelle qui, de son côté, eût été fort empêchée de distinguer sur la place les gens qui passaient. En avant de la porte Saint-Antoine, du côté de l'intérieur de la ville, aucune maison ne s'élevait, mais seulement de grandes murailles. Ces murailles étaient à droite celles de l'église Saint-Paul et à gauche celles de l'hôtel des Tournelles. C'est à l'extrémité de cet hôtel, du côté de la rue Sainte-Catherine, que la muraille faisait cet angle rentrant dont avait parlé Saint-Luc à Bussy. Puis venait le pâté de maisons situé dans la rue de Jouy et la grande rue Saint-Antoine, laquelle avait à cette époque en face d'elle la rue des Billettes et l'église Sainte-Catherine. D'ailleurs, nulle lanterne n'éclairait toute la portion du vieux Paris que nous venons de décrire. Dans les nuits où la lune se chargeait d'illuminer la terre, on voyait se dresser, sombre, majestueuse et immobile, la gigantesque Bastille, qui se détachait en vigueur sur l'azur étoilé du ciel. Dans les nuits sombres, au contraire, on ne voyait là, où elle était, qu'un redoublement de ténèbres que trouait de place en place la pâle lumière de quelques fenêtres. Pendant cette nuit, qui avait commencé par une gelée assez vive et qui devait finir par une neige assez abondante, aucun passant ne faisait crier sous ses pas la terre gercée de cette espèce de chaussée aboutissant de la rue au faubourg et que nous avons dit avoir été pratiquée par le prudent détour des promeneurs attardés. Mais en revanche, un œil exercé eût pu distinguer dans cet angle du mur des Tournelles plusieurs ombres noires qui se remuaient assez pour prouver qu'elles appartenaient à de pauvres diables de corps humains, fort embarrassés de conserver la chaleur naturelle que leur enlevait de minute en minute l'immobilité à laquelle ils semblaient s'être volontairement condamnés dans l'attente de quelque événement. Cette sentinelle de la tour, qui ne pouvait, à cause de l'obscurité, voir sur la place, n'eût pas davantage pu entendre, tant elle était faite à voix basse, la conversation de ces ombres noires. Pourtant, cette conversation ne manquait pas d'un certain intérêt. « Cet enragé Bussy avait bien raison, disait une de ces ombres, c'est une véritable nuit comme nous en avions à Varsovie quand le roi Henri était roi de Pologne. Si cela continue, comme on nous l'a prédit, notre peau se fendra. »« Allons donc, Maugiron, tu te plains comme une femme, répondit une autre ombre. Il ne fait pas chaud, c'est vrai, mais tire ton manteau sur tes yeux et mets les mains dans tes poches, tu ne t'apercevras plus du froid. » « En vérité, Schomberg, dit une troisième ombre, tu en parles fort à ton aise, et l'on voit bien que tu es allemand. Quant à moi, mes lèvres saignent et mes moustaches sont hérissées de glaçons. »« Moi, ce sont les mains, dit une quatrième voix. Sur ma parole, je parierai que je n'en ai plus. »« Que n'as-tu pris le manchon de ta maman, pauvre Kélus ?» répondit Schomberg. « Elle te l'eût prêté, cette chère femme, surtout si tu lui avais conté que c'était pour la débarrasser de son cher Bussy, qu'elle l'aime à peu près comme la peste. »« mon Dieu, ayez donc de la patience, » dit une cinquième voix. « Tout à l'heure, vous vous plaindrez, j'en suis sûr, que vous avez trop chaud. »« Dieu t'entende, d'Épernon, » fit Maugiron en battant la semelle. « Ce n'est pas moi qui ai parlé, » dit d'Épernon, « c'est d'eau, mais je me tais de peur que mes paroles ne gèlent. » « Que disais-tu ?» demanda Kélus à Maugiron. D'O disait, reprit Maugiron, que tout à l'heure nous aurions trop chaud, et je lui répondais, que Dieu t'entende. Ah, eh bien, je crois qu'il l'a entendu, car je vois là-bas quelque chose qui vient par la rue Saint-Paul. Erreur, ce ne peut pas être lui. Et pourquoi cela? Parce qu'il a indiqué un autre itinéraire. Comme ce serait chose étonnante, n'est-ce pas, qu'il se fût douté de quelque chose ou qu'il en eût changé. Ah, vous ne connaissez point Bussy, où il a dit qu'il passerait, il passera, quand bien même il saurait que le diable est embusqué sur la route pour lui barrer le passage. En attendant, répondit Caylus, voilà deux hommes qui viennent. Ah, ma foi, oui, répétèrent deux ou trois voix, reconnaissant la vérité du fait. En ce cas, chargeons, dit Schomberg. Un moment, dit d'Épernon, n'allons pas tuer de bons bourgeois ou d'honnêtes sages-femmes. Tiens, il s'arrête. En effet, à l'extrémité de la rue Saint-Paul, qui donne sur la rue Saint-Antoine, les deux personnes qui attiraient l'attention de nos cinq compagnons s'étaient arrêtées, comme indécises. « Oh, dit Caylus, est-ce qu'ils nous auraient vus ? Allons donc, à peine si nous nous voyons nous-mêmes. »« Tu as raison, reprit Caylus. Tiens, les voilà qui tournent à gauche. Ils s'arrêtent devant une maison. Ils cherchent. Ma foi, oui. » « On dirait qu'ils veulent entrer, dit Schomberg. Eh, un instant, est-ce qu'il nous échapperait ?»« Eh, ce n'est pas lui, puisqu'il doit aller au faubourg Saint-Antoine, et que ceux-là, après avoir débouché par Saint-Paul, ont descendu dans la rue, » répondit Maugiron. « Eh, dit Schomberg, qui vous répondra que le fin matois ne vous a pas donné une fausse indication, soit par hasard et négligemment, soit par malice et avec réflexion ?»« Au fait, cela se pourrait, dit Caylus. » Cette supposition fit bondir comme une meute affamée toute la troupe de gentilshommes. Ils quittèrent leur retraite et s'élancèrent l'épée haute vers les deux hommes arrêtés devant la porte. Justement, l'un de ces deux hommes venait d'introduire une clé dans la serrure, la porte avait cédé et commençait à s'ouvrir lorsque le bruit des assaillants fit lever la tête aux deux mystérieux promeneurs. « Qu'est-ceci ? » demanda en se retournant le plus petit des deux compagnons. « Serait-ce par hasard à nous qu'on en voudrait, d'Aurilly ?»« Ah, monseigneur, répliqua celui qui venait d'ouvrir la porte, cela m'en a bien l'air. Vous nommerez-vous ou garderez-vous l'incognito ?»« Des hommes armés, un guet-apens. Oh, quelques jaloux qui nous guettent, vrai Dieu, je l'avais bien dit, monseigneur, que la dame était trop belle pour n'être point courtisée. Entrons vite, d'Aurilly, on soutient mieux un siège en deçà qu'au-delà des portes. » « Oui, monseigneur, quand il n'y a pas d'ennemis dans la place, mais qui vous dit ?» Il n'eut pas le temps d'achever. Les jeunes gentilshommes avaient franchi cet espace d'une centaine de pas environ avec la rapidité de l'éclair. Caylus et Maugiron, qui avaient suivi la muraille, se jetèrent entre la porte et ceux qui venaient d'entrer, afin de couper leur retraite, tandis que Schomberg, Do et d'Épernon s'apprêtaient à les attaquer de face. « À mort, à mort !» cria Caylus, toujours le plus ardent des cinq. Et tout à coup, celui qu'on avait appelé « monseigneur » et à qui son compagnon avait demandé s'il garderait l'incognito, se retourna vers Caylus, fit un pas, et se croisant les bras avec arrogance, « Je crois que vous avez dit « à mort » en parlant à un fils de France, monsieur de Caylus, » dit-il d'une voix sombre et avec un sinistre regard. Caylus recula, les yeux hagards, les genoux fléchissants, les mains inertes. « Monseigneur le duc d'Anjou » s'écria-t-il. « Monseigneur le duc d'Anjou !» répétèrent les autres. « Eh bien, reprit François, d'un air terrible, crions-nous toujours à mort, mes gentilshommes ?»« Monseigneur, balbutia d'Épernon, c'était une plaisanterie, pardonnez-nous. »« Monseigneur, dit Do à son tour, nous ne soupçonnons pas que nous puissions rencontrer votre Altesse au bout de Paris et dans un quartier perdu. » Une plaisanterie, répliqua François, sans même faire à Do l'honneur de lui répondre. Vous avez de singulières façons de plaisanter, monsieur d'Épernon. Voyons, puisque ce n'est pas à moi qu'on en voulait, quel est celui que menaçait votre plaisanterie? Monseigneur, dit avec respect Schomberg, nous avons vu Saint-Luc quitter l'hôtel Montmorency et venir de ce côté. Cela nous a paru étrange, de sorte que nous avons voulu savoir dans quel but un mari quittait sa femme la première nuit de ses noces. L'excuse était plausible, car selon toute probabilité, le duc d'Anjou apprendrait le lendemain que Saint-Luc n'avait point couché à l'hôtel Montmorency, et cette nouvelle coïnciderait avec ce que venait de dire Schomberg. « Monsieur de Saint-Luc, vous m'avez pris pour monsieur de Saint-Luc, messieurs ?»« Oui, monseigneur, » reprirent en cœur les cinq compagnons. « Et depuis quand peut-on se tromper ainsi sur nous deux ? » fit le duc d'Anjou. « Monsieur de Saint-Luc à la tête de plus que moi. » C'est vrai, monseigneur, dit Caylus, mais il est juste de la taille de monsieur d'Origny, qui a l'honneur de vous accompagner. Ensuite, la nuit est fort sombre, monseigneur, répliqua Mougiron. Puis, voyant un homme mettre une clé dans une serrure, nous l'avons pris pour le principal d'entre vous, murmura Do. Enfin, dit Caylus, monseigneur ne peut pas supposer que nous ayons eu, à son égard, l'ombre d'une mauvaise pensée, pas même celle de troubler ses plaisirs. Tout en parlant ainsi, et tout en écoutant les réponses plus ou moins logiques que l'étonnement et la crainte permettaient de lui faire, François, par une habile manœuvre stratégique, avait quitté le seuil de la porte et suivi pas à pas d'Aurilly, son joueur de lutte, compagnon ordinaire de ses courses nocturnes, et il se trouvait déjà à une distance assez grande de cette porte pour que, confondue avec les autres, elle ne pût pas être reconnue. Mes plaisirs, dit-il aigrement, et qui peut vous faire croire que je prenne ici mes plaisirs? Oh, monseigneur, en tout cas, et pour quelque chose que vous soyez venu, répliqua Caylus, pardonnez-nous, nous nous retirons. C'est bien, adieu, messieurs. Monseigneur, ajouta d'Épernon, que notre discrétion, bien connue de votre Altesse, le duc d'Anjou, qui avait déjà fait un pas pour se retirer, s'arrêta et fronçant le sourcil. De la discrétion, monsieur de Nogaret, et qui donc vous en demande, je vous prie. Monseigneur, nous avions cru que votre Altesse, seule à cette heure et suivie de son confident, vous vous trompiez. Voici ce qu'il faut croire et ce que je veux que l'on croie. Les cinq gentilshommes écoutèrent dans le plus profond et le plus respectueux silence. J'allais, reprit-il d'une voix lente, et comme pour graver chacune de ses paroles dans la mémoire de ses auditeurs, le duc d'Anjou, j'allais consulter le juif Manassès, qui sait lire dans le verre et dans le marc de café. Il demeure, comme vous le savez, rue de la Tournelle. En passant, d'Aurilly vous a aperçu et vous a pris pour quelques archers faisant leur ronde. Aussi, ajouta-t-il, avec une espèce de gaieté effrayante pour ceux qui connaissaient le caractère du prince, en véritable consultateur de sorciers que nous sommes, rasions-nous les murailles et nous effacions-nous dans les portes pour nous dérober, s'il était possible, à vos terribles regards. Tout en parlant ainsi, le prince avait insensiblement regagné la rue Saint-Paul et se trouvait à portée d'être entendu des sentinelles de la Bastille au cas d'une attaque contre laquelle, sachant la haine sourde et invétérée que lui portait son frère, ne le rassurait que médiocrement les excuses et les respects des mignons d'Henri III. Et maintenant que vous savez ce qu'il faut en croire et surtout ce que vous devez dire, adieu, messieurs. Il est inutile de vous prévenir que je désire ne pas être suivi. Ils s'inclinèrent et prirent congé du prince, qui se retourna plusieurs fois pour les accompagner de l'œil, tout en faisant quelques pas lui-même du côté opposé. Monseigneur, dit d'Aurilly, je vous jure que les gens à qui nous venons d'avoir affaire avaient de mauvaises intentions. Il est tantôt minuit, et nous sommes, comme ils disent, dans un quartier perdu. Rentrons vite à l'hôtel, monseigneur, rentrons. Non pas, dit le prince en l'arrêtant, profitons de leur départ au contraire. C'est que votre Altesse se trompe, dit d'Aurilly, c'est qu'ils ne sont pas partis le moins du monde, c'est qu'ils ont rejoint, comme monseigneur peut le voir lui-même, la retraite où ils étaient cachés. Les voyez-vous, monseigneur, là-bas, dans ce recoin, à l'angle de l'hôtel des Tournelles? François regarda. D'Aurilly n'avait dit que l'exacte vérité. Les cinq gentilshommes avaient en effet repris leur position, et il était évident qu'ils méditaient un projet ininterrompu par l'arrivée du prince. Peut-être même ne se postaient-ils dans cet endroit que pour épier le prince et son compagnon et s'assurer qu'ils allaient effectivement chez le juif Manassès. Eh bien, monseigneur, demanda d'Aurilly, que décidez-vous? Je ferai ce qu'ordonnera votre Altesse, mais je ne crois pas qu'il est prudent de demeurer. Mordieu, dit le prince, c'est cependant fâcheux d'abandonner la partie. Oui, je sais bien, monseigneur, mais la partie peut se remettre. J'ai déjà eu l'honneur de dire à votre Altesse que je m'étais informé. La maison est louée pour un an. Nous savons que la dame loge au premier. Nous avons des intelligences avec la femme de chambre, une clé qui ouvre sa porte. Avec tous ses avantages, nous pouvons attendre. Tu es sûr que la porte avait cédé? Ah, j'en suis sûr, à la troisième clé que j'ai essayée. À propos, l'as-tu refermée? La porte? Oui, sans doute, monseigneur. Avec quelque accent de vérité que d'Aurilly eût prononcé cette affirmation, nous devons dire qu'il était moins sûr d'avoir refermé la porte que de l'avoir ouverte. Cependant, son aplomb ne laissa pas plus de doute au prince sur la seconde certitude que sur la première. Mais, dit le prince, c'est que je n'eusse pas été fâché de savoir moi-même ce qu'ils font là, monseigneur. Oh, je puis vous le dire sans crainte de me tromper, ils sont réunis pour quelque guet-apens. Partons, votre Altesse a des ennemis, qui sait ce que l'on oserait tenter contre elle. Eh bien, partons, j'y consens, mais pour revenir. Ah, pas cette nuit au moins, monseigneur, que votre Altesse apprécie mes craintes. Je vois partout des embuscades, et certes, il m'est bien permis d'avoir de pareilles terreurs quand j'accompagne le premier prince de sang, l'héritier de la couronne, que tant de gens ont intérêt à ne pas voir hériter. Soit, dit François, rentrons à l'hôtel, mais nous y retrouverons Bussy, qui doit être revenu de ses maudites noces. Il aura ramassé quelques bonnes querelles et aura tué ou tuera demain quelqu'un des mignons de cette couchette, et cela me consolera. Soit, monseigneur, dit d'Aurilly, espérons en Bussy. Je demande pas mieux, moi, et j'ai comme votre Altesse sous ce rapport la plus grande confiance en lui. Et ils partirent. Ils n'avaient pas tourné l'angle de la rue de Jouy que nos cinq compagnons virent apparaître à la hauteur de la rue Tison un cavalier enveloppé dans un grand manteau. Le pas sec et dur du cheval résonnait sur la terre presque pétrifiée, et luttant contre cette nuit épaisse, un faible rayon de lune qui tentait un dernier effort pour percer le ciel nuageux et cette atmosphère lourde de neige argentait la plume blanche de son toquet. Il tenait en bride et avec précaution la monture qu'il dirigeait et que la contrainte qui lui imposait de marcher au pas faisait écumer malgré le froid. Cette fois, dit Caylus, c'est lui. Impossible, dit Maugiron. Pourquoi cela? Parce qu'il est seul et que nous l'avons quitté avec Livarot, d'Entragues et Ribérac et qu'ils ne l'auront pas laissé se hasarder ainsi. Oh, c'est lui, cependant, c'est lui, dit d'Épernon. Tiens, reconnais-tu son sonore et sa façon insolente de porter la tête? Il est bien seul. Alors, dit Dos, c'est un piège. En tout cas, piège ou non, dit Schomberg, c'est lui, et comme c'est lui, aux épées, aux épées! C'était en effet Bussy, qui venait insoucieusement par la rue Saint-Antoine et qui suivait ponctuellement l'itinéraire que lui avait tracé Caylus. Il avait, comme nous l'avons dit, reçu la vie de Saint-Luc, et malgré le tressaillement fort naturel que ses paroles lui avaient fait éprouver, il avait congédié ses trois amis à la porte de l'hôtel de Montmorency. C'était là une de ces bravades, comme les aimait le valeureux colonel, lequel disait de lui-même « Je ne suis qu'un simple gentilhomme, mais je porte en ma poitrine un cœur d'empereur ». Et quand je lis dans les vies de Plutarque les exploits des anciens Romains, il n'est pas à mon gré un seul héros de l'Antiquité que je ne puisse imiter dans tout ce qu'il a fait. Et puis Bussy avait pensé que peut-être Saint-Luc, qui ne comptait pas d'ordinaire au nombre de ses amis, et dont en effet il ne devait l'intérêt inattendu qu'à la position perplexe dans laquelle lui, Saint-Luc, se trouvait, ne l'avait ainsi averti que pour l'engager à prendre des précautions qu'il eût pu rendre ridicule aux yeux de ses adversaires en admettant qu'il eût des adversaires prêts à l'attendre. Or, Bussy craignait plus le ridicule que le danger. Il avait, aux yeux de ses ennemis eux-mêmes, une réputation de courage qui lui faisait, pour la soutenir au niveau où elle était élevée, entreprendre les plus folles aventures. En homme de Plutarque, il avait donc renvoyé ses trois compagnons, vigoureuse escorte qui l'eût fait respecter même d'un escadron. Et seul, les bras croisés dans son manteau, sans autres armes que son épée et son poignard, il se dirigeait vers la maison où l'attendait non pas une maîtresse, comme on eût pu le croire, mais une lettre que chaque mois lui envoyait au même jour la reine de Navarre, en souvenir de leur bonne amitié, et que le brave gentilhomme, selon la promesse qu'il avait faite à la belle Marguerite, promesse à laquelle il n'avait pas manqué une seule fois, allait prendre la nuit et lui-même, pour ne compromettre personne, au logis du messager. Il avait fait impunément le trajet de la rue des Grands Augustins à la rue Saint-Antoine, quand, en arrivant à la hauteur de la rue Sainte-Catherine, son œil actif, perçant et exercé, distingua dans les ténèbres, le long du mur, ces formes humaines que le duc d'Anjou, moins bien prévenu, n'avait point aperçues d'abord. Il y a d'ailleurs pour le cœur vraiment brave, à l'approche du péril qu'il devine, une exaltation qui pousse à sa plus haute perfection l'acuité des sens et de la pensée. Bussy compta les ombres noires sous la muraille grise. 3, 4, 5, dit-il, sans compter les laquais, qui se tiennent sans doute dans un autre coin et qui accourront au premier appel des maîtres. On fait cas de moi, ce qu'il paraît. Fin diable, voilà pourtant bien de la besogne pour un seul homme. Allons, allons, ce brave Saint-Luc ne m'a point trompé, et dût-il me trouer le premier l'estomac dans la bagarre, je lui dirai « Merci de l'avertissement, compagnon ». Et ce disant, il avançait toujours. Seulement son bras droit jouait à l'aise sous son manteau, dont, sans mouvement apparent, sa main gauche avait détaché la graffe. Ce fut alors que Schomberg cria « Aux épées !» et qu'à ce cri répété par ses quatre compagnons, les gentilshommes bondirent au-devant de Bussy. « Oui, dame, messieurs, dit Bussy de sa voix aiguë mais tranquille, on veut donc tuer, à ce qu'il paraît, ce pauvre Bussy. C'est donc une bête fauve, c'est donc ce fameux sanglier que nous comptions chasser. Eh bien, messieurs, le sanglier va en découdre quelques-uns, c'est moi qui vous le jure, et vous savez que je ne manque pas à ma parole. » Soit, dit Schoenberg, mais cela n'empêche pas que tu sois un grand malin pris, seigneur Bussy d'Amboise, de nous parler ainsi à cheval quand nous t'écoutons à pied. Et en disant ces paroles, le bras du jeune homme vêtu de satin blanc sortit du manteau et étincela comme un éclair d'argent au rayon de la lune, sans que Bussy pût deviner quelle intention, si ce n'était à une intention de menace, correspondait au geste qu'il faisait. Aussi allait-il répondre comme il répondait d'ordinaire, lorsque, au moment d'enfoncer les éperons dans le ventre de son cheval, il sentit l'animal plier et mollir sous lui. Schomberg, avec une adresse qui lui était particulière et dont il avait déjà donné les preuves dans les nombreux combats soutenus par lui, tout jeune qu'il était, avait lancé une espèce de coutelas dont la large lame était plus lourde que le manche, et l'arme, en taillant le jarret du cheval, était restée dans la plaie comme un couperet dans une branche de chêne. L'animal poussa un hennissement sourd et tomba, en frissonnant sur ses genoux. Bussy, toujours préparé à tout, se trouva les deux pieds à terre et l'épée à la main. « Ah, malheureux, dit-il, c'est mon cheval favori, vous me le paierez !» Et comme Schomberg approchait, emporté par son courage et calculant mal la portée de l'épée que Bussy tenait serrée au corps, comme on calcule mal la portée de la dent du serpent roulé en spirale, cette épée et ce bras se détendirent et lui crevèrent la cuisse. Schomberg poussa un cri. « Eh bien, dit Bussy, suis-je de parole, un de décousu déjà. C'était le poignet de Bussy et non le jarret de son cheval qu'il fallait couper, maladroit. » Et en un clin d'œil, tandis que Schomberg comprimait sa cuisse avec son mouchoir, Bussy eut présenté la pointe de sa longue épée au visage, à la poitrine des quatre autres assaillants, dédaignant de crier. Car appeler au secours, c'est-à-dire reconnaître qu'il avait besoin d'aide, c'était indigne de Bussy. Seulement, en roulant son manteau autour de son bras gauche et s'en faisant un bouclier, il rompit, non pas pour fuir, mais pour gagner une muraille contre laquelle il put s'adosser afin de n'être point pris par derrière, portant 10 coups à la minute et sentant parfois cette molle résistance de la chair qui indique que les coups ont porté. Une fois il glissa et regarda machinalement par terre. Cet instant suffit à Caylus, qui lui porta un coup dans le côté. « Touché !» cria Caylus. « Oui, dans le pourpoint, répondit Bussy, qui ne voulait pas même avouer sa blessure. » Et bondissant sur Caylus, il lia si vigoureusement son épée que l'arme sauta à 10 pas du jeune homme. Mais il ne put poursuivre sa victoire, car au même instant, Do, d'Épernon et Maugiron l'attaquèrent avec une nouvelle furie. Schomberg avait bandé sa blessure, Caylus avait ramassé son épée. Il comprit qu'il allait être cerné, qu'il n'avait plus qu'une minute pour gagner la muraille et que, s'il ne profitait pas de cette minute, il allait être perdu. Bussy fit en arrière un bond qui mit 3 pas entre lui et les assaillants, mais 4 épées le rattrapèrent bien vite. Et cependant, c'était encore trop tard, car Bussy venait, grâce à un autre bond, de s'adosser au mur. Là, il s'arrêta, fort comme Achille ou comme Roland, et souriant à cette tempête de coups qui s'abîmait sur sa tête et cliquetait autour de lui. Tout à coup, il sentit la sueur à son front et un nuage passa sur ses yeux. Il avait oublié sa blessure, et les symptômes d'évanouissement qu'il venait d'éprouver la lui rappelaient. « Ah, tu faiblis !» s'écria Caylus, redoublant ses coups. « Tiens, dit Bussy, juge-en !» et du pommeau de son épée, il le frappa à la tempe. Caylus roula sous ce coup de poing de fer. Puis, exalté et furieux comme le sanglier qui, après avoir tenu tête aux chiens, fond sur eux, il poussa un cri terrible et s'élança en avant. Dau et d'Épernon reculèrent. Maugiron avait relevé Caylus et le tenait embrassé. Bussy brisa du pied l'épée de ce dernier et taillada d'un coup d'estoc l'avant-bras de d'Épernon. Un instant, Bussy fut vainqueur, mais Caylus revint à lui. Mais Schomberg, tout blessé qu'il fut, rentra en lice. Mais quatre épées flamboyèrent de nouveau. Bussy se sentit perdu une seconde fois. Il rassembla toutes ses forces pour opérer sa retraite et recula pas à pas pour regagner son mur. Déjà la sueur glacée de son front, le tintement sourd de ses oreilles, une taie douloureuse et sanglante étendue sous ses yeux, lui annonçait l'épuisement de ses forces. L'épée ne suivait plus le chemin que lui traçait la pensée obscurcie. Bussy chercha le mur avec sa main gauche, le toucha, et le froid du mur lui fit du bien. Mais, à son grand étonnement, le mur céda. C'était une porte entrebâillée. Alors Bussy reprit espoir et reconquit toutes ses forces pour ce moment suprême. Pendant une seconde, ses coups furent si rapides et si violents que toutes les épées s'écartèrent ou se baissèrent devant lui. Alors il se laissa glisser de l'autre côté de cette porte et, se retournant, il la poussa d'un violent coup d'épaule. Le pêne claqua dans la gâche, c'était fini, Bussy était hors de danger, Bussy était vainqueur puisqu'il était sauvé. Alors, d'un œil égaré par la joie, il vit à travers le guichet, à l'étroit grillage, les figures pâles de ses ennemis. Il entendit les coups d'épée furieux entamer le bois de la porte, puis des cris de rage, des appels insensés. Enfin, tout à coup, il lui sembla que la terre manquait sous ses pieds, que la muraille vacillait. Il fit trois pas en avant et se trouva dans une cour, tomba sur lui-même et alla rouler sur les marches d'un escalier. Puis, il ne sentit plus rien, et il lui sembla qu'il descendait dans le silence et l'obscurité du tombeau. Bussy avait eu le temps, avant de tomber, de passer son mouchoir sous sa chemise et de boucler le ceinturon de son épée par-dessus, ce qui avait fait une espèce de bandage à la plaie vive et brûlante d'où le sang s'échappait comme un jet de flamme. Mais lorsqu'il en arriva là, il avait déjà perdu assez de sang pour que cette perte amenât l'évanouissement auquel nous avons vu qu'il avait succombé. Cependant, soit que dans ce cerveau surexcité par la colère et la souffrance, la vie persistât sous les apparences de l'évanouissement, soit que cet évanouissement cessa pour faire place à une fièvre qui fit place à un second évanouissement, voici ce que Bussy vit ou crut voir dans cette heure de rêve ou de réalité, pendant cet instant de crépuscule placé entre l'ombre de deux nuits. Il se trouvait dans une chambre avec des meubles de bois sculpté, avec une tapisserie à personnages et un plafond peint. Ces personnages, dans toutes les attitudes possibles, tenant des fleurs, portant des piques, semblaient sortir des murailles contre lesquelles ils s'agitaient pour monter au plafond par des chemins mystérieux. Entre deux fenêtres, un portrait de femme était placé, éclatant de lumière. Seulement il semblait à Bussy que le cadre de ce portrait n'était autre que le chambranle d'une porte. Bussy, immobile, fixé sur son lit par un pouvoir supérieur, privé de tous ses mouvements, ayant perdu toutes ses facultés, excepté celle de voir, regardait tous ces personnages d'un œil terne, admirant les fades sourires de ceux qui portaient des fleurs et les grotesques colères de ceux qui portaient des épées. Avait-il déjà vu ces personnages ou les voyait-il pour la première fois? C'est ce qu'il ne pouvait se préciser tant sa tête était alourdie. Et tout à coup, la femme du portrait sembla se détacher du cadre, et une adorable créature, vêtue d'une longue robe de laine blanche, comme celle que portent les anges, avec des cheveux blonds tombant sur ses épaules, avec des yeux noirs comme du jais, avec de longs cils veloutés, avec une peau sous laquelle il semblait qu'on pût voir circuler le sang qui la teintait de rose, s'avança vers lui. Cette femme était si prodigieusement belle, ses bras étendus étaient si attrayants que Bussy fit un effort pour aller se jeter à ses pieds. Mais il semblait retenu à son lit par des liens pareils à ceux qui retiendraient le cadavre au tombeau, tandis que, dédaigneuse de la terre, l'âme immatérielle monte au ciel. Cela le força de regarder le lit sur lequel il était couché, et il lui sembla que c'était un de ces lits magnifiques, sculptés sous François Ier, auxquels pendaient des courtines de damas blancs brochées d'or. À la vue de cette femme, les personnages de la muraille et du plafond cessèrent d'occuper Bussy. La femme du portrait était tout pour lui, et il cherchait à voir quel vide elle laissait dans le cadre. Mais un nuage que ses yeux ne pouvaient percer flottait devant ce cadre et lui en dérobait la vue. Alors il reporta ses yeux sur le personnage mystérieux, et, concentrant sur la merveilleuse apparition tous ses regards, il se mit à lui adresser un compliment en vers, comme il les faisait, c'est-à-dire couramment. Mais, soudain, la femme disparut. Un corps opaque s'interposait entre elle et Bussy. Ce corps marchait lourdement et allongeait les mains, comme fait le patient au jeu de Colin Maillard. Bussy sentit la colère lui monter à la tête, et il entra dans une telle rage contre l'importun visiteur que s'il eût eu la liberté de ses mouvements, il se fût certes jeté sur lui. Il est même juste de dire qu'il essaya, mais la chose lui fut impossible. Comme il s'efforçait vainement de se détacher du lit auquel il semblait attaché, le nouveau venu parla. « Eh bien, demanda-t-il, suis-je enfin arrivé ?»« Oui, maître, dit une voix si douce que toutes les fibres du cœur de Bussy en tressaillirent, et vous pouvez maintenant ôter votre bandeau. » Bussy fit un effort pour voir si la femme à la douce voix était bien la même que celle du portrait, mais la tentative fut inutile. Il n'aperçut devant lui qu'une jeune et gracieuse figure d'homme qui venait, selon l'invitation qui lui en avait été faite, d'ôter son bandeau et qui promenait tout autour de la chambre des regards effarés. « Au diable, l'homme !» pensa Bussy, et il essaya de formuler sa pensée par la parole ou par le geste, mais l'un fut aussi impossible que l'autre. « Ah, je comprends maintenant, dit le jeune homme en s'approchant du lit. Vous êtes blessé, n'est-ce pas, mon cher monsieur? Voyons, nous allons essayer de vous raccommoder. » Bussy voulut répondre, mais il comprit que cela était chose impossible. Ses yeux nageaient dans une vapeur glacée, et les extrêmes bourrelets de ses doigts le piquaient comme s'ils eussent été traversés par 100 000 épingles. « Est-ce que le coup est mortel ?» demanda avec un serrement de cœur et un accent de douloureux intérêt qui fit venir des larmes aux yeux de Bussy la voix douce qui avait déjà parlé et que le blessé reconnut pour être celle de la dame du portrait. « Dame, je n'en sais rien encore, mais je vais vous le dire, » répliqua le jeune homme. En attendant, il est évanoui. Ce fut là tout ce que put comprendre Bussy. Il lui sembla entendre comme le froissement d'une robe qui s'éloignait. Puis il sentit quelque chose comme un fer rouge qui traversait son flanc, et ce qui restait d'éveillé en lui acheva de s'évanouir. Plus tard, il fut impossible à Bussy de fixer la durée de cet évanouissement. Seulement, lorsqu'il sortit de ce sommeil, un vent froid courait sur son visage. Des voix rauques et discordantes écorchaient son oreille. Il ouvrit les yeux pour voir si c'était les personnages de la tapisserie qui se querellaient avec ceux du plafond, et, dans l'espérance que le portrait serait toujours là, il tourna la tête de tous côtés. Mais de tapisserie, point. De plafond, pas davantage. Quant au portrait, il avait complètement disparu. Bussy n'avait à sa droite qu'un homme vêtu de gris, avec un tablier blanc retroussé à la ceinture et taché de sang. À sa gauche, qu'un moine génovais fin qui lui soulevait la tête, et devant lui qu'une vieille femme marmottant des prières. L'œil errant de Bussy s'attacha bientôt à une masse de pierres qui se dressait devant lui, et montant jusqu'à la plus grande hauteur de ces pierres pour la mesurer, il reconnut alors le temple, ce donjon flanqué de murs et de tours. Au-dessus du temple, le ciel blanc et froid, légèrement doré par le soleil levant. Bussy était purement et simplement dans la rue, ou plutôt sur le rebord d'un fossé, et ce fossé était celui du temple. « Ah, merci, mes braves gens, dit-il, pour la peine que vous avez prise de m'apporter ici. J'avais besoin d'air, mais on aurait pu m'en donner en ouvrant les fenêtres, et j'eusse été mieux sur mon lit de damas blanc Et or que sur cette terre nue, n'importe, il y a dans ma poche, à moins que vous ne vous soyez payé déjà vous-même, ce qui serait prudent, quelque 20 écus d'or. Prenez, mes amis, prenez. Mais non, mon gentilhomme, dit le boucher, nous n'avons pas eu la peine de vous apporter. Vous étiez là, bien véritablement là. Nous vous y avons trouvé, en passant au point du jour. Au diable, dit Bussy, et le jeune médecin y était-il? Les assistants se regardèrent. C'est un reste de délire, dit le moine en secouant la tête. Puis, revenant à Bussy, mon fils, lui dit-il, je crois que vous feriez bien de vous confesser. Bussy regarda le moine d'un air effrayé. Il n'y avait pas de médecin, pauvre cher jeune homme, dit la vieille. Vous étiez là, seul, abandonné, froid comme un mort. Voyez, il y a un peu de neige, et votre place est dessinée en noir sur la neige. Bussy jeta un regard sur son côté endolori, se rappela avoir reçu un coup d'épée, glissa la main sur son pourpoint et sentit son mouchoir à la même place, fixé sur la plaie par le ceinturon de son épée. C'est singulier, dit-il. Déjà, profitant de la permission qu'il leur avait donnée, les assistants se partageaient sa bourse avec force exclamations pitoyables à son endroit. Là, dit-il, quand le partage fut achevé, c'est fort bien, mes amis. Maintenant, conduisez-moi à mon hôtel. Ah, certainement, certainement, pauvre cher jeune homme, dit la vieille. Le boucher est fort, et puis il a son cheval sur lequel vous pouvez monter. Est-ce vrai? Dit Bussy. C'est la vérité du bon Dieu, dit le boucher, et moi et mon cheval sommes à votre service, mon gentilhomme. C'est égal, mon fils, dit le moine, tandis que le boucher va chercher son cheval, vous feriez bien de vous confesser. Comment vous appelez-vous? Demanda Bussy. Je m'appelle frère Goranflot, répondit le moine. Eh bien, frère Goranflot, dit Bussy en s'accommodant sur son derrière, j'espère que le moment n'est pas encore venu. Aussi mon père au plus pressé. J'ai froid et je voudrais être à mon hôtel pour me réchauffer. Et comment s'appelle votre hôtel? Hôtel de Bussy. Comment? S'écrièrent les assistants. Hôtel de Bussy? Oui, qu'y a-t-il donc d'étonnant à cela? Vous êtes donc des gens de monsieur de Bussy? Je suis monsieur de Bussy lui-même. Bussy! S'écria la foule. Le seigneur de Bussy! Le brave Bussy! Le fléau des mignons! Vive Bussy! Et le jeune homme, enlevé sur les épaules de ses auditeurs, fut emporté en triomphe en son hôtel, tandis que le moine s'en allait, comptant sa part des 20 écus d'or, secouant la tête et murmurant, si c'est ce sacripant de Bussy, cela ne m'étonne plus qu'il n'ait pas voulu se confesser. Une fois rentré dans son hôtel, Bussy fit appeler son chirurgien ordinaire, lequel trouva la blessure sans conséquence. Dites-moi, lui dit Bussy, cette blessure n'a-t-elle pas été pansée? Ma foi, dit le docteur, je ne l'affirme pas, quoique, après tout, elle paraisse bien fraîche. Et, demanda Bussy, est-elle assez grave pour m'avoir donné le délire? Ah, certainement. Diable, dit Bussy, cependant cette tapisserie avec ces personnages portant des fleurs et des piques, ce plafond à fresque, ce lit sculpté et tendu de damas blanc, ce portrait entre les deux fenêtres, cette adorable femme blonde aux yeux noirs, ce médecin qui jouait à Colin Maillard et à qui j'ai failli crier casse-cou, ce serait donc un délire, et il n'y aurait de vrai que mon combat avec les mignons. Où me suis-je donc battu déjà? Ah oui, c'est cela, c'était près de la Bastille, vers la rue Saint-Paul. Je me suis adossé à un mur, ce mur c'était une porte, et cette porte a cédé, heureusement. Je l'ai refermée à grand-peine, et je me suis trouvé dans une allée. Ah, là, je ne me rappelle plus rien, jusqu'au moment où je me suis évanoui. Ou bien ai-je rêvé? Ah, maintenant, voilà la question. Ah, et mon cheval à propos, on doit avoir retrouvé mon cheval mort sur la place. Docteur, appelez, je vous prie, quelqu'un. Le docteur appela un valet. Bussy s'informa et il apprit que l'animal, saignant, mutilé, s'était traîné jusqu'à la porte de l'hôtel et qu'on l'avait trouvé là, hennissant à la pointe du jour. Aussitôt, l'alarme s'était répandue dans l'hôtel. Tous les gens de Bussy qui adoraient leur maître s'étaient mis à sa recherche et la plupart d'entre eux n'étaient pas encore rentrés. Il n'y a donc que le portrait, dit Bussy, qui demeure pour moi à l'état de rêve. Et c'en était un, en effet. Quelle probabilité y a-t-il qu'un portrait se détache de son cadre pour venir converser avec un médecin qui a les yeux bandés? Ah, c'est moi qui suis un fou. Et cependant, quand je me le rappelle, ce portrait était bien charmant. Il avait... Bussy se mit à détailler le portrait, et à mesure qu'il en repassait tous les détails en sa mémoire, un frisson voluptueux, ce frisson de l'amour qui réchauffe et qui chatouille le cœur, passait comme un velours sur sa poitrine brûlante. « Et j'aurais rêvé tout cela !» s'écria Bussy, tandis que le docteur posait l'appareil sur sa blessure. « Ah, mordieu, c'est impossible, on ne fait pas de pareils rêves !» Récapitulons. Et Bussy se mit à répéter pour la centième fois. J'étais au bal, Saint-Luc m'avait prévenu qu'on devait m'attendre du côté de la Bastille, j'étais avec Entraguet, Ribérac et Livarol, je les ai renvoyés, j'ai pris ma route sur le quai du Châtelet, etc., etc. À l'hôtel des Tournelles, j'ai commencé d'apercevoir les gens qui m'attendaient, ils se sont rués sur moi, ont estropié mon cheval, nous nous sommes rudement battus, je suis entré dans une allée, je me suis trouvé mal, et puis, ah voilà, c'est cet épuis qui me tue. Il y a une fièvre, un délire, un rêve après cet épuis. Et puis, ajouta-t-il avec un sourire, je me suis retrouvé sur le talus des fossés du temple où un moine génovéfin a voulu me confesser. Ah, c'est égal, j'en aurai le cœur net, reprit Bussy, après un silence d'un instant qu'il employa encore à rappeler ses souvenirs. Docteur, me faudra-t-il donc garder encore la chambre 15 jours pour cette égratignure, comme j'ai fait pour la dernière? C'est selon, voyons, est-ce que vous ne pouvez pas marcher? Demanda le chirurgien. Oh, moi, au contraire, dit Bussy, il me semble que j'ai du vif argent dans les jambes. Faites quelques pas. Bussy sauta à bas de son lit et donna la preuve de ce qu'il avait avancé en faisant assez allègrement le tour de sa chambre. Cela ira, dit le médecin, pourvu que vous ne montiez pas à cheval et que vous ne fassiez pas 10 lieues pour le premier jour. Ah, la bonne heure, s'écria Bussy, voilà un médecin. Cependant, j'en ai vu un autre cette nuit. Ah oui, bien vu, j'ai sa figure gravée là, et si je le rencontre jamais, je le reconnaîtrai, j'en réponds. Mon cher seigneur, dit le médecin, je ne vous conseille pas de le chercher. On a toujours un peu de fièvre après des coups d'épée. Vous devriez cependant savoir cela, vous qui en êtes à votre 12e. « Oh mon Dieu !» s'écria tout à coup Bussy, frappé par une idée nouvelle, car il ne songeait qu'au mystère de sa nuit. « Est-ce que mon rêve aurait commencé au-delà de la porte au lieu de commencer en deçà? Est-ce qu'il n'y aurait pas eu plus d'allées et d'escaliers, qu'il n'y avait de lit de dama blanc et hors de portrait? Est-ce que ces brigands-là, me croyant tué, m'auraient porté tout bellement jusqu'au fossé du temple afin de dépister quelques spectateurs de la scène? Alors c'est pour le coup que j'aurais bien certainement rêvé le reste. Dieu saint, si c'est vrai, s'ils m'ont procuré le rêve qui m'agite, qui me dévore, qui me tue, je fais serment de les éventrer jusqu'au dernier. Mon cher seigneur, dit le médecin, si vous voulez vous guérir promptement, il ne faut pas vous agiter ainsi. Excepté cependant ce bon Saint-Luc, continua Bussy, sans écouter ce que lui disait le docteur. Celui-là, c'est autre chose, il s'est conduit en ami pour moi. Aussi, je veux qu'il ait ma première visite. Seulement, pas avant ce soir à 5 heures, dit le médecin. Soit, dit Bussy, mais je vous assure, ce n'est pas de sortir et de voir du monde qui peut me rendre malade, mais de me tenir en repos et de demeurer seul. Au fait, c'est possible, dit le docteur, vous êtes en toute chose un singulier malade. Agissez à votre guise, monseigneur, je ne vous recommande plus qu'une chose, c'est de ne pas vous faire donner un autre coup d'épée avant que celui-là soit guéri. Bussy promit.